Le palais du soleil s'élève sur de hautes colonnes, tout resplendissant d'or et de pierreries qui jettent l'éclat de la flamme. L'ivoire poli en couronne le faîte, et l'argent rayonne sur les doubles battants de sa porte lumineuse. Mais la matière le cède encore au travail. Le ciseau de Vulcain y grava l'océan, dont les bras environnent la terre, et le globe même de la terre, et le ciel, voûte de l'univers. Là, les flots azurés ont leur dieu, Triton, la conque en main, l'inconstant Protée, Égéon qui presse entre ses bras le dos énorme des baleines, Doris et ses filles. Celles-ci nagent dans les ondes. D'autres, assises sur un rocher, font sécher leur humide chevelure, d'autres encore voguent portées sur des poissons. Elles n'ont pas toutes les mêmes traits, et cependant, sans être différentes, leurs traits ont cette ressemblance qui sied à des sœurs. La terre est couverte de villes avec leurs habitants, de forêts et de bêtes féroces, de fleuves, de nymphes et de divinités champêtres. Au-dessus s'élève la sphère rayonnante des cieux. Six constellations brillent à droite et six à gauche. Dès que le fils de Climène a gravi le sentier qui mène à ce palais et qu'il a pénétré dans la demeure de celui qui n'ose plus appeler son père, il dirige ses pas vers lui. Mais ne pouvant soutenir l'éclat qui l'environne, il s'arrête et le contemple de loin. Voilé d'un manteau de pourpre, Phébus était assis sur un trône étincelant du feu des Amérodes. Il était entouré des jours, des mois, des années, des siècles et des heures, séparés par des intervalles égaux. On voyait, debout à ses côtés, le jeune printemps, couronné de fleurs nouvelles, l'été nu, tenant des gerbes dans sa main, l'automne, encore tout souillé des raisins qu'il a foulés, et le glacial hiver, aux cheveux blanchis et hérissés. Assis au milieu de cette cour, le soleil, de cet œil qui voit tout dans le monde, a vu Phaéton, immobile d'étonnement et de crainte à l'aspect de tant de merveilles. « Quel motif t'amène en ces lieux ? » dit-il. « Et qui viens-tu chercher, ô mon sang, ô Phaéton, toi que je ne saurais renier pour mon fils ?» Il répond. « Ô flambeau qui dispense la lumière à l'immense univers, ô Phébus, ô mon père, si vous me permettez l'usage de ce nom, si Climène ne couvre pas sa faute d'un voile mensonger, vous, l'auteur de mes jours, donnez-moi quelque gage éclatant qui me déclare votre fils, et délivrez mon esprit du doute qui l'agite, » il dit. Et le soleil, détachant les rayons éblouissants qui couronnent sa tête, commanda à Phaéton de s'approcher, et le serrant dans ses bras, « Non, tu ne dois pas être désavoué par moi, » s'écrie-t-il. « Climène a dit vrai en te révélant ta naissance, et pour lever tous tes doutes, demande à ton gré un gage de ma tendresse. Tu le recevras aussitôt. Qu'il soit témoin de ma promesse, ce fleuve par lequel les dieux ont coutume de jurer et que mes yeux n'ont jamais vu. » À peine il achevait ces mots, que Phaéton demande le char de son père et le droit de guider un seul jour les rênes de ses chevaux ailés. Le soleil regretta son serment, et secouant trois fois sa tête radieuse. « Ton vœu, dit-il, a rendu mon serment téméraire. Ah, puissais-je ne pas l'accomplir ? Ce refus, je l'avoue, est le seul que je voudrais te faire, ô mon fils. Mais les conseils me sont encore permis. Tes désirs ne sont pas sans danger. Elle est grande, ô Phaéton, la tâche où tu aspires. Elle ne sied ni à tes forces, ni à ta jeunesse. Tes destinées sont d'un mortel, et tes vœux sont d'un dieu. Que dis-je ? Les dieux mêmes n'oseraient porter si haut leur ambition. Tu l'ignores, toi qui ne crains pas d'y prétendre. Aucun d'eux, quelque confiance qu'il ait en lui-même, ne peut, excepté moi, s'asseoir sur le char qui répand la flamme. Le maître de l'Olympe, lui-même, Jupiter, dont la main terrible lance les foudres dévorantes, ne saurait le conduire. Et qui avons-nous de plus grand que Jupiter ? À l'entrée de la carrière, la route est escarpée. À peine le matin, mes coursiers, rafraîchis par le repos, peuvent-ils la gravir. Au milieu du ciel, sa hauteur est immense. Vu de ce point, la mer et la terre me font souvent trembler moi-même. L'effroi fait palpiter mon cœur et glace mon courage. À son déclin, c'est une pente rapide. Elle demande un guide expérimenté. En ce moment, Thétis elle-même, qui m'offre un asile dans ses ondes, craint toujours que je n'y sois précipité. Ce n'est pas tout. Une éternelle révolution agite le ciel. Elle entraîne les astres et les fait tourner avec une extrême vitesse. Je gravis en sens contraire, et résistant à la force qui dompte l'univers, je surmonte dans ma course le mouvement rapide qui l'emporte. Suppose que mon char t'est confié, que faire alors? Pourras-tu lutter contre le tourbillon des pôles et vaincre la vitesse de l'axe des cieux? Tu te flattes peut-être de rencontrer en ton chemin des bois sacrés, des villes célestes, des temples enrichis d'offrandes. La route est semée d'embûches et remplie de monstres effrayants. Je veux que tu suives sans t'égarer la véritable voie. Il te faudra passer entre les cornes du taureau qui regarde à l'orient, l'arc du centaure démonie, la gueule menaçante du lion, les bras terribles du scorpion, recourbés autour d'un long espace, et ceux du cancer qui s'ouvrent en sens opposé. Mes coursiers, bouillants du feu qui brûle dans leurs flancs et qu'ils exhalent de leur bouche et de leurs naseaux, ne seront pas dociles à ta main. À peine souffrent-ils la mienne! Quand leur ardeur s'échauffe et s'allume, leur bouche alors repousse les rênes. Ô mon fils, crains d'obtenir de ton père un funeste présent, et puisqu'il en est temps encore, rétracte des vœux imprudents. Pour te croire issu de mon sang, tu demandes un témoignage certain. En est-il un plus certain que le trouble où je suis? Mon effroi paternel atteste que tu es mon fils. Tiens, contemple mon visage! Plus au ciel que tes yeux, pénétrant au fond de mon âme, puissent y surprendre les angoisses qui la déchirent. Que te dirai-je enfin? Promène tes regards sur les richesses que renferme le monde. Parmi tous les trésors du ciel, de la terre et de la mer, choisis et demande, tu n'essuieras point de refus. Si je te refuse une seule grâce, c'est qu'à vrai dire elle est moins un honneur qu'un châtiment. Oui, c'est un châtiment, Phaéton, et non un bienfait que tu me demandes. Insensé, pourquoi me presser dans tes bras caressants? N'en doute pas, je l'ai juré par les ondes du Styx, tes vœux, quels qu'ils soient, seront satisfaits. Puisse-t-il être plus sage? Tels furent ses derniers avis. Mais, rebelle à sa voix, Phaéton persiste dans sa résolution et brûle du désir de monter sur le char de son père. Autant qu'il peut, du moins, Apollon résiste et diffère. Mais il fallut enfin le conduire jusqu'au char immortel, présent de Vulcain. L'essieu et le timon étaient d'or. Un cercle d'or formait la courbe des roues, sillonnée d'espace en espace par des rayons d'argent semés sur le timon. Des chrysolites et des pierreries, disposées avec art, réfléchissaient l'éclatante lumière du soleil. Tandis que l'audacieux Phaéton admire dans tous ses détails ce merveilleux ouvrage, la vigilante aurore ouvre les portes resplendissantes du radieux Orient. Elle sort de son palais de rose, les étoiles fuient et se rassemblent en foule autour de Lucifer, qui se retire le dernier du céleste séjour. Dès que le soleil voit l'univers rougir au feu naissant de l'aurore et la lune s'éclipser jusqu'aux extrémités de son disque, il commande aux heures rapides d'atteler ses coursiers. Les déesses se hâtent d'exécuter ses ordres. Détachés par leurs mains de leur crèche céleste, les coursiers arrivent, vomissant la flamme et saturés des sucs de l'ambroisie, et ils reçoivent le frein retentissant. Apollon répand sur le front de son fils quelques gouttes d'une essence divine, le rend impénétrable aux traits rapides de la flamme et couronne sa tête de rayons. Présage de son deuil, des soupirs redoublés s'échappent de son âme inquiète. Il s'écrie. Si du moins tu daignes obéir au dernier conseil de ton père, ô mon fils, fais plus souvent usage des rênes que de l'aiguillon. De même, mes coursiers précipitent leur course. La difficulté est de modérer leur effort. Garde-toi de suivre la ligne droite qui coupe les cinq zones. Un autre sentier trace une courbe longue et oblique à travers les trois zones du milieu qui lui servent de limite. Fuis le pôle austral ainsi que l'ours uni aux aquilons et marche dans ce sentier. Tu y trouveras encore l'empreinte visible de mes roues. Mais afin de dispenser au ciel et à la terre une égale chaleur, garde-toi de trop abaisser ou de trop élever ton char dans les plaines de l'éther. Trop haut, tu embraserais les célestes demeures. Trop bas, tu embraserais la terre. Le milieu est le chemin le plus sûr. Crains encore que ton char ne t'entraîne trop à droite dans les nœuds du serpent ou trop à gauche vers la région inclinée de l'autel. Marche à une égale distance de ces deux astres. J'abandonne le reste à ta fortune. Puisse-t-elle se montrer propice et veiller mieux que toi au salut de tes jours. Mais tandis que je parle, la nuit humide aux bornes de sa course a touché les bords de l'Hespérie. Je ne puis tarder plus longtemps. L'univers attend ma présence. Le flambeau de l'aurore a dissipé les ténèbres. Prends les rênes en main, ou plutôt, si ton cœur s'est changé, use de mes conseils plutôt que de mon char. Tu le peux. Tu n'as point encore quitté l'asile assuré que t'offre ce palais. Ta main téméraire ne guide pas encore ce char, objet de tes désirs insensés. À l'abri du péril, laisse-moi dispenser la lumière au monde, et contente-toi d'en jouir. Mais le fougueux jeune homme s'élance sur le char rapide. Il s'y place, et joyeux de toucher les rênes confiées à ses mains, il rend grâce à son père, qui lui cède à regret. Cependant, les agiles coursiers du soleil, Pyroïs, Éous, Aéton et Phlégon, remplissent l'air du bruit de leur hennissement et du feu de leur haleine, et frappent du pied les barrières. À peine Thétis, ignorant la destinée de son petit-fils, a-t-elle, en les levant, ouvert à leur ardeur l'immense carrière du monde, qu'ils prennent leur essor. Agités dans les airs, leurs pieds fendent les nuages qui s'opposent à leur passage, et secondés par leurs ailes, ils devancent les vents partis des mêmes lieux. Mais le char était léger, les coursiers ne pouvaient le reconnaître. Le joug n'avait plus son poids ordinaire. Tel qu'un vaisseau dont le lest est trop faible vacille et devient à cause de sa trop grande légèreté le jouet mobile des flots, tel, privé de son poids accoutumé, le char bondit au haut des airs. À ses profondes secousses, on eût dit un char vide. Les coursiers l'ont à peine senti que, précipitant leur course, ils abandonnent la route tracée et ne courent plus dans le même ordre qu'auparavant. Phaéton s'épouvante. De quel côté tourner les rênes confiées à ses mains? Quel chemin suivre? Il ne sait. Et quand il saurait, pourrait-il commander aux coursiers? Alors, pour la première fois, les étoiles glacées des trions s'échauffèrent aux rayons du soleil, et vainement elles cherchèrent à se plonger dans l'océan qui leur était fermé. Voisin du pôle glacial, le serpent, jusqu'alors engourdi par le froid et jamais redoutable, s'échauffe et puise dans la chaleur une rage nouvelle. Et toi aussi, dans le trouble qui t'agitait, tu pris, dit-on, la fuite, ô bouvier, malgré ta lenteur ordinaire et le soin de ton chariot. Du haut des airs, l'infortuné Phaéton a vu la terre disparaître dans un profond éloignement. Il pâlit, ses genoux tremblent d'une terreur nouvelle, et ses yeux, au sein même de tant de clarté, se couvrent de ténèbres. Oh, qu'il voudrait n'avoir jamais touché les guides du char de son père, qu'il regrette de connaître son origine et d'avoir triomphé par ses prières. Il aimerait bien mieux être appelé fils de Mérops. Il est emporté comme un vaisseau battu par le souffle furieux de Borée et dont le pilote, vaincu par la tempête, abandonne le gouvernail aux dieux et le salue aux prières. Que fera-t-il? Derrière lui, un grand espace des cieux déjà franchi. Devant lui, un espace plus grand encore. Sa pensée les mesure l'un et l'autre. Tantôt il porte ses regards vers ce couchant que le destin ne lui permet pas d'atteindre. Tantôt il les reporte vers l'Orient. Quel parti prendre? Il l'ignore et reste immobile d'effroi. Il n'abandonne pas les rênes et sa main ne peut les retenir. Il ne sait plus les noms des coursiers. Répandus çà et là dans les diverses régions du ciel, mille prodiges, mille monstres affreux frappent sa vue épouvantée. Il est un lieu où le scorpion replie ses bras en deux arcs et, développant la courbure de ses pieds et de sa queue, en couvre l'espace de deux signes. Phaéton voit le monstre, suant un noir venin, le menacer du dard recourbé dont sa queue est armée. À cet aspect, son âme se trouble et sa main, glacée par l'effroi, laisse échapper les rênes. Sitôt que les coursiers les ont sentis flotter sur leurs flancs, ils se donnent carrière. Libres du frein, ils s'élancent à travers les airs dans des régions inconnues et volent ou les emportent leur fougue désordonnée. Ils bondissent jusqu'aux astres suspendus à la céleste voûte et entraînent le char à travers les abîmes. Tantôt ils montent au plus haut des cieux, tantôt, roulant de précipice en précipice, ils tombent dans les régions plus voisines de la terre. La lune s'étonne de voir les chevaux de son frère descendre dans leur course au-dessous des siens. Les nuages embrasés s'exhalent en fumée. Le feu dévore les points les plus élevés de la terre. Elle se fend, s'entr'ouvre et se dessèche en perdant les sucs qui la nourrissent. On voit jaunir les pâturages, les arbres brûlent avec leurs feuillages, et les moissons arides fournissent l'aliment de leurs ruines à la flamme qui les détruit. Mais ce sont là les moins horribles maux. De grandes villes s'écroulent avec leurs murailles. Des peuples et des pays entiers sont changés par l'incendie en un monceau de cendres. Les forêts se consument avec les montagnes qu'elles couvrent. Tout brûle. Et l'Athos et le Taurus qui coupent la Cilicie, et le Tmolus et l'Ota et l'Ida célèbrent jusqu'alors par ces fontaines, dont la source est maintenant tarie. Et les Lycons, séjour des muses, et les Muses auxquelles Éagre n'a point encore donné son nom. L'Etna voit grandir sans mesure l'incendie qui dévore ses flancs. Avec lui s'enflamme la double cime du Parnasse, et l'Eryx et le Cynthe et l'Orthrix et le Rhodope, qui voient fondre enfin ces neiges éternelles. Et le Mimas et le Dindyme et le Mycale et le Citeron, destinés aux misères de Bacchus. Les glaces de la Scythie la protègent en vain, le Caucase est en feu, les flammes envahissent l'Ossa, le Pinde et l'Olympe qui dépassent leurs deux sommets, et les Alpes qui s'élèvent jusqu'aux cieux, et l'Apennin qui supporte les nues. Phaéton voit l'univers entier en proie à l'incendie. Il n'en peut plus longtemps soutenir la violence. Il ne respire plus qu'une vapeur brûlante, semblable à l'air qui sort d'une fournaise profonde. Il sent déjà son char s'échauffer et blanchir au contact de la flamme. Déjà les cendres et les étincelles qui volent jusqu'à lui le suffoquent et l'oppressent. Une fumée ardente l'enveloppe de toutes parts. Où va-t-il? Où est-il? Au milieu de l'épais brouillard qui l'entoure, il ne peut le découvrir et se laisse emporter au gré de ses fougueux coursiers. Ce fut alors, dit-on, que le sang des Éthiopiens, attiré à la surface du corps, leur donna cette couleur d'ébène qu'ils ont conservée. Alors la Libye, desséchée par cet embrasement, devint un aride désert. Alors les nymphes, les cheveux épars, pleurèrent leurs lacs et leurs fontaines taries. La baie aussi chercha vainement la source de Dircé, Argos celle d'Amymone, Éphyr celle de Pyrène. Les fleuves, dont la nature a séparé les rives par un large lit, ne sont pas à l'abri de la flamme. On voit fumer au sein de leurs ondes le Tanaïs et le vieux Péné et le Caïque, voisins du mont Trente, et l'impétueux Ismène et Irémente qui bagne Phocis, et le Xanthe destiné à un nouvel embrasement, et le blond Lycormas, et le Méandre qui se joue entre ses bords sinueux, et le Mélas qui arrose la Mygdonie, et le Rotas, si voisin du Thénard. On voit brûler aussi l'Euphrate, qui baigne les murs de Babylone, et l'Oronte, et le rapide Thermodon, et le Gange, et l'Euphase, et l'Ister. L'Alphée bouillonne, et les rives du Spercus sont en feu. L'or que le Tage roule dans ses eaux coule, fondu par la flamme, et les oiseaux qui faisaient retentir la Libye de leurs chants mélodieux périssent dans les eaux brûlantes du Kestre. Le Nil épouvanté s'enfuit aux confins du monde, où il cache sa tête, qu'il dérobe encore à nos yeux. Les sept bouches de ce fleuve, desséchées jusqu'au sable, ne sont plus que sept arides vallées. Le même incendie met à sec, autour de l'Ismaru, l'Èbre et le Strymon, et dans l'Hespérie, le Rhin, le Rhône, l'Éridan, et le fleuve auquel les dieux ont promis l'empire du monde, le Tibre lui-même. Partout la terre est sillonnée de mille fentes, au travers desquelles la lumière, pénétrant jusqu'au Tartare, épouvante le roi des enfers et sa compagne. L'océan se resserre, on voit s'étendre une plaine de sable aride, là où naguère était son lit. Jusqu'alors ensevelies sous les eaux, des montagnes surgissent et augmentent le nombre des Cyclades disséminées au sein des mers. Les poissons se réfugient au fond des abîmes. Les dauphins, à la croupe recourbée, n'osent plus, suivant leur coutume, s'élever au-dessus des eaux ni bondir dans les airs. Les phoques, couchés sur le dos, flottent sans vie à la surface de la mer. Néré lui-même, dit-on, et Doris et ses filles se cachèrent dans leurs antres brûlants. Trois fois Neptune, le front menaçant, voulut élever ses bras au-dessus des flots. Trois fois il fut forcé de céder à la violence des feux de l'air. Cependant la terre, au milieu de la mer qui l'environne, et des fontaines dont les eaux partout décroissantes, s'était caché dans ses entrailles impénétrables, comme dans le sein d'une mère, soulève jusqu'au cou sa tête autrefois si féconde et maintenant aride. Elle couvre son front de sa main, elle ébranle le monde d'une vaste secousse, et s'affaissant elle-même d'un degré au-dessous de sa place ordinaire, elle exhale ses plaintes d'une voix altérée. Si telle est ta volonté, si j'ai mérité mon malheur, pourquoi ta foudre dort-elle, souverain maître des dieux? Si je dois périr par les feux, que ce soit du moins par les tiens, je me consolerai de ma ruine si tu en es l'auteur. À peine ma bouche peut-elle proférer ces paroles. Une vapeur brûlante étouffait sa voix. Regarde mes cheveux consumés par la flamme, regarde ces étincelles qui couvrent et mes yeux et ma bouche. Est-ce donc là le prix de ma fertilité, l'honneur que tu me réservais pour mes bienfaits, à moi qui endure les blessures du soc et du râteau, et qui souffre mille travaux durant toute l'année, à moi qui dispense le feuillage au troupeau, aux mortels la douce nourriture de mes fruits, à vos autels l'encens? Mais quand j'aurais mérité de périr, quel est le crime de la mère, quel est le crime de ton frère? D'où vient que l'océan, dont l'empire lui fut confié par le destin, voit saison de décroître et s'éloigner des cieux? Si l'infortune de ton frère et la mienne ne peuvent te toucher, sois du moins sensible au danger des cieux où tu règnes. Promène tes regards de l'un à l'autre pôle, vois les fumer tous les deux. Si le feu les atteint, ton palais croule. Vois Atlas, haletant, soutenir avec peine sur ses épaules l'axe du monde blanchi par la flamme. Et si la mer, si la terre, si le palais déçu vient à périr, nous retombons dans la confusion de l'antique chaos. Dérobe à l'incendie ce qu'il a épargné, et veille au salut de l'univers. Elle dit, et ne pouvant supporter plus longtemps la chaleur, ni poursuivre sa plainte, elle retire sa tête dans son sein, et la cache au fond des antres les plus voisins de l'empire d'Eman. Cependant, l'arbitre suprême prend à témoin les dieux et le maître du char lui-même que s'il ne prévient ce désastre, tout va succomber au plus cruel destin. Il monte au faîte des célestes demeures. C'est de là qu'il se plaît à répandre au loin les nuages sur la terre. C'est de là qu'il fait gronder le tonnerre, que sa main même brandit et lance ses foudres. Mais alors, plus de nuages dont il puisse envelopper la terre, plus de torrents répandre du haut des cieux. Il tonne, et balançant son tonnerre à la hauteur de son front, il foudroie l'imprudent phaéton, lui ravit du même coup et le souffle et le char, et dans ses feux vengeurs, il éteint ce qui dévore l'univers. Les coursiers s'épouvantent, ils bondissent en sens contraire, dérobent leur tête aux joues, et laissent à l'abandon les rênes brisées. Là tombe le frein, là les cieux arrachés du timon, ici les rayons des roues fracassés, plus loin les débris épars du char qui volent en éclats. Phaéton, dont le feu dévore la blonde chevelure, roule en se précipitant et laisse dans les airs un long sillon de lumière, semblable à une étoile qui, dans un temps serein, tombe ou du moins paraît tomber du haut des cieux. Loin de sa patrie, dans l'hémisphère opposé, le vaste Éridan le reçoit dans ses ondes et lave son visage fumant. Les naïades de l'Hespérie recueillent dans un tombeau son corps où fume encore la triple foudre qui l'a frappé et gravent ses vers sur la pierre. Ici gît Phaéton, conducteur du char de son père. S'il ne put le gouverner, il tomba du moins victime d'une noble audace. Son père, plongé dans la douleur, couvrit son front d'un voile de deuil. S'il faut en croire la renommée, un jour s'écoula sans soleil, et sans autre clarté que les lueurs de l'incendie, et ce désastre eut alors son utilité.